Je vais parler très très peu de temps, parce que j'ai déjà beaucoup parlé durant ces deux jours. Nous avons eu hier, depuis la présentation invitée de Marc Gautam, beaucoup d'exemples de projets libres, de méthodologies libres, et bon, à différents niveaux du livre. On a eu des exposés sur des corpus, sur des plateformes. On a eu plein de questions de recherche derrière, parce que là on est là pour parler de données libres, de sciences ouvertes, mais derrière chacune, chacun d'entre nous a des questions de recherche, des questions artistiques, des questions pédagogiques, des questions industrielles, commerciales, et on a toutes et tous des manières différentes de les traiter. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans différents exposés, j'ai vu qu'on parlait de réutilisation. Alors après, c'est normal que chaque personne qui vient parle de son projet, mais souvent on a vu des liens entre les différents projets. On a vu des liens entre les différents projets, entre les personnes qui étaient dans la salle ou les personnes qui étaient à l'extérieur, mais on a vu aussi des liens avec des données externes musicales et des données extra-musicales. Je donne qu'un exemple, je ne vais pas reciter tout le monde, mais hier, par exemple, quand on a vu l'inventaire des orgues, il était lié à OpenStreetMap, à des données, on a vu d'ailleurs plusieurs fois des liens avec OpenStreetMap. On a parlé beaucoup de Common, Delphine Montagne, là, qui est déjà partie, nous a parlé de données musicales, données qui sont mises dans Common, mais aussi d'autres données où on peut faire des liens. Donc, toutes ces choses de faire des liens de réutilisation, on en a parlé, certains d'entre nous le font déjà, et aussi le fait de mettre des choses en libre, en ouvert, c'est de permettre que d'autres le fassent. Johan Abou l'a dit tout à l'heure, que quand on met quelque chose en libre, on ne sait pas qui va l'utiliser. Et quelque part, alors c'est un pari sur... c'est un cadeau que l'on fait à l'humanité, aux personnes qui passent après nous, et c'est savoir qu'il va y avoir l'innovation qui va continuer. Hier, il y avait peut-être pas mal de recherches. Ça, ce matin, on a eu pas mal d'utilisations, que ça soit côté pédagogique, côté orchestre, bibliothèque, BNF. Puis on a terminé là par une session entreprise. Encore une fois, on a vu une grande hétérogénéité des pratiques. Et c'est normal, je veux dire, on a toutes et tous des points de vue, des buts différents, mais on a vu qu'il y a quand même toujours des points sur lesquels on peut avancer, parfois utiliser, créer, améliorer des briques libres. Et il y a des difficultés, il y a des challenges. On n'est pas naïve. Il y a des challenges qui sont légaux, on en a parlé, on a parlé à la fois des challenges légaux, et on peut creuser ces choses-là, mais on a parlé même, on va dire, des challenges sociétaux, le fait de dire que ce à quoi on pense quand on réfléchit aux droits d'auteur, là, c'est des choses qui n'ont pas été faites au début pour le domaine public, et quelque part, ça implique de changer un petit peu notre logiciel. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié ton prénom. Christophe, voilà, que même les manières de réfléchir à comment on fait les choses, on doit les changer, on doit les inventer, et notre réflexion participe à cela. Et donc il y a des challenges légaux et des challenges techniques, parfois il y a des challenges économiques. Évidemment, quand on a une entreprise, quand on a un projet, ou même quand on est un acteur non commercial mais qu'on a des serveurs à faire tenir, quand on a le projet des orchestres dont on parlait, bon, un projet, ils ont envie d'être le plus libre possible, elle va être le plus possible, mais il faut du financement. Voilà, donc tout ça, c'est bien un nouveau écosystème qui a créé, dans lequel les choses ne sont pas gratuites. Il y a du travail, il y a de l'emploi à créer, pour créer des ressources libres. Il faut trouver quels sont les bons flux financiers qui peuvent exister, quels sont les bons flux administratifs qui existent. Ce n'est pas facile, on sait qu'on a des défis à faire. Et surtout, on peut avoir parfois l'impression que c'est un peu du David contre Goliath, parce qu'on l'a dit dans la dernière session, quelqu'un a parlé de, je ne sais plus qui, de rouleau compresseur. Oui, tu as parlé de... Non, c'était... Antoine qui vient de parler de rouleau compresseur, des grosses entreprises qui peuvent être là, qui existent. Je pense que quelqu'un a mentionné un moment le terme de copy fraud. En fait, certaines personnes qui font déjà beaucoup de droits d'auteur, qui défendent des droits, vont avoir tendance à pousser à dire non, mais c'est leur interprétation. Voilà. Donc, on peut avancer un petit peu collectivement. Je vais terminer par quelques points très positifs, et c'est juste après pour lancer la discussion. On a vu qu'il y a beaucoup de manières de s'améliorer individuellement, collectivement. Et nous savons que nous sommes obligés de le faire déjà dans des cadres, quand nous déposons des projets de financement, tout ça, on nous demande quels sont vos plans de données et nous pouvons faire mieux. Donc que ça soit quand c'est demandé ou même quand c'est pas demandé, de dire d'avoir une démarche volontaire, de dire regardez, nous allons faire tel projet de création, de recherche, et nous allons faire de la donnée libre, du code libre. Et nous allons expliquer à nos financeurs, expliquer qu'ils soient, que ce soit l'État, nos financeurs privés, à quel point ces choses-là peuvent être utiles et peuvent créer de la valeur, parce qu'elles vont pouvoir permettre de faire des économies par d'autres acteurs, d'autres actrices de la société, et pouvoir au final avoir un gain global. Donc ça, évidemment, c'est tout du travail à faire, et c'est un travail de longue haleine, mais on peut le faire. Et donc voilà, donc c'était juste pour relancer, mais moi en fait j'ai entendu pas mal de choses d'espoir dans tout ce que j'ai, entendu sur les deux jours. Donc maintenant la parole est à vous, on a encore on a 20 minutes en fait pour discuter, donc vraiment sur les sujets que vous voulez ramener.
Vous voulez intervenir aussi
Très brièvement, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que Mathieu a dit. Je pense que c'est une conclusion menée d'une main de maître. Et je pense que tout simplement, en fait, le moment est venu pour qu'on ait des échanges et qu'on essaye de aussi donner la parole à des gens qui ne sont pas forcément intervenus pendant ces jours-ci, mais qui auraient des choses à proposer, ce qui sera évidemment le cas. Et aussi pour rappeler que ICAR, c'est un projet qui passe à travers les secteurs de ICAR Lab, qui sont dédiés à différentes problématiques. Aujourd'hui, c'est une journée qui a été organisée par Florence et Mathieu, en coopération avec le secteur musique et le secteur données, métadonnées, ICAR. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de vous orienter vers des petits projets qui vont venir, des projets de journée d'accélération qui vont arriver dans l'année à venir, notamment du côté du secteur musique. Puisqu'on va avoir une journée qui va être dédiée au sujet qui nous a un petit peu tous questionnés et sur lequel beaucoup d'espoir comme de peur repose, qui est OMR, Optical Music Recognition. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement en réflexion et on espère pouvoir amener avant la fin de cette année. Et sinon, il y a des projets aussi qui vont être un peu plus transversaux, comme par exemple une journée qui va être dédiée à l'économie du secteur musical. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment clairement, on demande aujourd'hui, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut aussi continuer à échanger dans les dernières minutes qui nous restent. Et également une journée sur les questions croisées du genre et des données, et genre et gestion dans les établissements d'accueil musicaux. Plutôt la partie, je vais dire, que ça prend au niveau des organismes, enfin des lieux de concert. Donc on va sortir un petit peu du paradigme de la recherche. Et oui, peut-être aussi, je pense que c'est ce qui est très important, ce qui a été très bien réalisé aujourd'hui par Florence et Mathieu, et sur lequel on avait pu avoir déjà des premières pierres posées lors des journées de Versailles ou au CNSM, c'est vraiment cette volonté de faire collaborer les acteurs du secteur industriel, les acteurs aussi de la pédagogie, qui n'est pas seulement dans l'enseignement supérieur, mais dans l'enseignement artistique, dans l'enseignement secondaire. Et donc je pense que le but du jeu, c'est qu'il faut continuer à avoir ces temps-là où on mutualise nos réflexions, où on mutualise les enjeux. Et aussi, je reprends ce que disait Mathieu par rapport à la notion d'espoir, même si c'est un peu dur en ce moment quand on voit les actualités, d'essayer de faire front, de serrer les coudes, de trouver des solutions pour pouvoir continuer nos pratiques et développer et travailler ensemble. Et on a très souvent parlé du consortium Musique à deux, un petit mot un peu promotionnel, mais je me permets, comme une ressource pour accéder à des campus musicologiques et à des solutions musicologiques. N'hésitez pas, on a un carnet hypothèse qui s'appelle musiqueadeux.hypothèse, mais tout simplement, si vous cherchez consortium Musique à deux sur Google, vous devriez le trouver assez facilement, et vous avez des points sur lesquels vous pouvez vous connecter avec Philippe ou avec moi, si vous avez des questions, pour qu'on travaille ensemble, pour des questions d'accès aux données, avec le moteur musicalizer, j'ai tout un tas de choses, donc n'hésitez pas pour qu'on puisse collaborer si vous avez des besoins sur les campus et des choses comme ça.
On va passer aux questions, hein, je pense.
Oui, si quelqu'un peut intervenir.
N'hésitez pas.
Je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais, Mathieu, hein, sur la question d'ouverture, etc. C'est aussi un moment où je pense qu'on est plutôt convaincus, les personnes dans la salle, mais en fait, les questions d'ouverture, ça ramène aussi les questions de compétition dans la recherche, ça ramène tout ça. Enfin, moi, ça fait pas mal d'années que je suis au niveau du logiciel libre, du monde du libre, etc., je suis convaincu. Donc, dès qu'on a fait le projet, on a dit tout de suite, on publie tout en accès libre, on va même travailler sur mettre à disposition toutes les données qu'on a collectées sur ces dernières années, mais combien de personnes le font? Parce que derrière, si si je le fais, les autres personnes qui vont faire des qui vont peut-être publier à ma place, etc. C'est un peu ce qu'on disait hein, sur les. C'est la même problématique, hein, le monde académique, le monde artistique, etc. Il y a les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et c'est vrai que quand on reste dans des logiques très concurrentielles comme ça, c'est difficile de. C'est difficile de dépasser ce cadre et de dépasser. D'amener à ce que les gens le fassent naturellement, facilement, ils ne se posent même pas la question. Enfin,
Ça dépend peut-être des contextes de recherche. Nous, il y a plusieurs conférences et journaux qui demandent maintenant explicitement que toutes les données soient publiées et tout ça. Voilà.
Oui, je crois qu'on peut quand même dire que l'ESR a une politique ultra volontariste en matière de des données, quand même. C'est quand même un milieu.
Je pense que ça dépend des cultures.
Ah non, ça dépend des disciplines, mais bien sûr, on est bien d'accord. Mais malgré tout, au niveau politique, la décision elle a été prise il y a 20 ans et elle est tenue. Mais ce qui était courageux, c'était de faire cette journée d'accélération sur musique. Alors là, pour le coup, l'ouverture n'est pas la norme. Et le SR, je pense que c'était c'était quand même le projet de l'écart, justement, de créer un peu ces clashs. Parce que là, c'est un clash. Enfin, ce qu'on a entendu à la fin, on a une Chine. Et ce qu'on a entendu sur les orchestres, voilà, toutes ces choses-là, c'est quand même des chocs de culture impressionnants. En ce sens-là, c'est une réussite. Et c'est vrai que c'est déjà en coordonnant les efforts de l'US de l'enseignement supérieur de la recherche qui se fait bien là-dedans. Et déjà, on peut essayer de bien nous organiser pour des bonnes pratiques. Et c'était, je pense, assez programmatique de programmer l'une des premières journées d'accélération sur la science humaine.
Et encore une fois, merci à ICAR d'avoir suivi, d'avoir accompagné tout cela. Mais la vidéo que je te montrais, le concert de hier, où on a parlé de juste rémunération, donc là, on a eu un contrat avec les artistes sont rémunérés, les artistes étaient enchantés de participer à ce concert, où elles ont eu leur cachet, et 24 heures après, sur Wikimedia Commons, il y a leur enregistrement. Donc ça va participer à leur promotion, et bien plus que s'il y avait eu un contrat standard de fait avec leur droit, elles auraient gagné peut-être 2 euros de droit sur des années de diffusion, et encore.
Et encore, voilà.
En fait, au niveau artistique, en tout cas, pendant longtemps, il y a eu un paradigme où si c'était ouvert, c'était gratuit. Et on est en train d'en sortir parce qu'aujourd'hui, les artistes bossent de plus en plus gratuitement, y compris dans des secteurs qui sont extrêmement rentables. Donc en fait, pourquoi ça ne profiterait pas justement à la culture ouverte de venir profiter des gens qui ont tellement profité, qui ont tellement rincé l'autre bout de la chaîne, que finalement, en termes de compétitivité, finalement presque, quand c'est ouvert et gratuit, il n'y a rien qui peut battre ça, finalement. Enfin, c'est une question, une question ouverte. Ouais. Je pense qu'il y a un paradigme qu'il ne faut pas oublier, en tout cas du côté hors recherche et artiste, que pendant très longtemps, tout ce qui était ouvert était gratuit et qu'il y a une méfiance culturelle.
Une personne, d'ailleurs, tout à l'heure avait mentionné. Ah oui, non, mais c'est encore ça. Sur le, c'est pas seulement l'objet. Et quelque part, le travail des artistes qu'on leur a rémunéré hier, ok, il y a le concert, il y a l'objet, il y a les vidéos, mais derrière, c'est le travail de préparation, de répétition, qui était avec là une commande sur un répertoire qu'elle ne connaissait qu'en partie. Donc voilà, donc c'est l'expertise qui est là plus que l'objet en lui-même.
Oui, moi j'ai une remarque complémentaire concernant les objets, les documents, les créations, le produit des créations. Je pense aussi ce que je tire là, des échanges, c'est qu'il y a une complémentarité aussi entre les acteurs de la conservation et que certaines institutions ne peuvent pas forcément ouvrir ou prendre le risque de rendre accessible certains documents dont le statut n'est pas forcément très clair. D'autres acteurs, des réseaux de recherche, des réseaux d'associations, qui en plus sont directement en prise avec les personnes concernées, issues des traditions musicales en question, peut-être que eux peuvent plus, et d'ailleurs ils le font déjà, assumer cette forme de prise de risque et d'ouverture Et donc finalement, c'est intéressant aussi pour les différents acteurs de se coordonner. Et donc, nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont totalement légitimes et qui sont finalement assurées par d'autres acteurs. Et par ailleurs, parfois, c'est des choses aussi que nous, on peut conserver aussi sous une forme physique, par exemple. Donc voilà, il y a des liens, en fait, entre les différents acteurs institutionnels, académiques, associatifs, et c'est un enjeu important de s'identifier les uns les autres aussi.
Oui, on a eu des expériences comme ça, dans le domaine des musiques anciennes, avec une grosse plateforme qui était l'archive des images de manuscrits médiévaux, qui avait tous les inventaires. Alors là aussi, il y a eu plein de problèmes de copyright, parce qu'ils avaient récupéré en fait, plein de données qui étaient publiées. Mais ils n'avaient pas le droit de publier les images des manuscrits qui étaient dans les bibliothèques virtuelles des bibliothèques de la Bibliothèque nationale. Tout ça, c'est pas... ils étaient liés par un contrat de 2007. Et on avait simplement fait quelques lignes de code pour aligner l'inventaire et les images et le mettre sur un autre site. Et ils nous ont dit que c'était formellement interdit, puis eux n'avaient pas le droit de le faire. Mais quand on l'a fait, ils ont dit enfin quelqu'un le fait, c'est ça qu'il faut faire. Et finalement, ils ont été déviés de leur contrat parce que tout ça est tombé, finalement, parce que ça ne pouvait pas résister. Mais ils étaient évidemment ravis de ça, parce qu'effectivement, eux n'avaient pas le droit de le faire. Mais que dans le cadre d'un projet de recherche, tu peux tout à fait le faire, puisque c'est des données qui étaient disponibles.
Merci, c'est vraiment deux super interventions en plus venant de la BNF. Mais non, mais c'est vraiment, je pense, fondamental de se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes positionnements institutionnels. Et donc cette prise de risque, donc voilà, allez-y, prenez des risques. Et pour l'instant, je pense qu'il y a peu de monde, même personne, qui a été condamné pour des usages vraiment de données libres pour la recherche, tout ça. Donc ne pas hésiter.
Moi, ce que je retiens aussi, c'est que, alors, moi, mon entrée, elle est plutôt dans les pratiques d'ici et maintenant, et je regarde aussi beaucoup ce qui se fait du côté des pratiques des arts numériques. Et j'ai le sentiment qu'il faudrait aussi faire de la recherche sur comment aujourd'hui ces jeunes artistes, qui sont très souvent pluridisciplinaires, aujourd'hui j'ai l'impression de parler que de musique, j'ai l'impression qu'on passe à côté aussi de ce qui se fait maintenant, et en fait la musique elle se retrouve dans beaucoup beaucoup d'autres sphères, et j'ai l'impression qu'ils réfléchissent dès maintenant à la pérennité de leurs œuvres, parce qu'en fait... Alors, en tout cas, moi, si j'ai la chance de fréquenter, en tout cas, ADN à Lyon, je vous invite à aller voir leurs travaux où, effectivement, toute la tech est partagée en licence libre et où il y a une réflexion sur, en fait, le côté un peu éphémère de certaines de leurs pièces qui sont, par exemple, dans la rue. Et donc, ils ont une réflexion de qu'est-ce que ça va devenir demain? Est-ce que ma tech est encore disponible demain? Enfin, toutes ces choses-là où j'ai l'impression que c'est un peu des questions qu'on a un peu brassées. Donc peut-être qu'il y a aussi des gens qui aujourd'hui, dans les pratiques d'aujourd'hui, se posent la question et de la diffusion de leurs œuvres et de leur rémunération en tant qu'artiste. Voilà. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a des endroits où ça bouge aussi et que c'est pas que aux musiques qu'il faut peut-être incarner.
Je vais bien te répondre, Sandrine, je pense que Serge aura des choses à dire aussi parce que j'ai vu réagir. Et là, ma réponse est plus du côté musicien. Du côté chercheur. Mais justement, moi je prends un petit peu le contre-pied de ta réponse en signalant que souvent, de plus en plus, il y a beaucoup de systèmes d'appel à projets quand même pour les opportunités artistiques. De plus en plus maintenant, on assiste à une ubérisation du principe de la commande artistique qui se base sur des appels qui utilisent en général de manière extrêmement précise et dans le cadre de bulles technologiques ou de recommandations. La tech, le numérique, l'AI, les univers immersifs, tout ce qu'on veut, comme justement principe pour permettre la création de l'œuvre, et que si on ne l'utilise pas, eh ben, c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc je suis convaincu d'un côté, les jeunes artistes aujourd'hui vont s'emparer de cet outil parce que en fait, la nécessité est tellement grande dans les appels à projets, dans les recommandations, qu'elle est absolument. On ne peut pas passer à côté en fait. Et je pense qu'il y a aussi. Et l'usage de la tech et de ces ressources-là comme finalement une solution presque de remède à la précarité, puisque finalement les temps de répétition ça coûte cher, les studios ça coûte cher, les enregistrements etc., etc. Enfin, tout un tas de choses en fait font que c'est de plus en plus difficile d'accéder à des situations de création dans des lieux avec des résidences. Et que finalement, la technologie, bah, c'est on a un ordi à la maison avec et au max un casque d'interface et enceinte. Et si on a un peu geek, on peut arriver à faire, bah, avec Max MSP ou Pure Data, on peut faire des visuels, de la musique, etc. Et puis après, on peut envoyer dans des installations pour occuper un espace sur du multicanal. Et donc, pour moi, il y a ce côté-là où c'est un peu la pomme est verte en même temps. Donc c'est pour ça que je reste quand même assez vigilant de l'irruption de ces éléments et de l'injonction à utiliser la technologie peut-être comme un phare à la précarité artistique.
Marc, si tu veux intervenir, tout ce que j'ai dit entre deux.
Je ne crois pas que ce soit du tout ce que j'ai dit, parce que là tu reviens sur la mise en concurrence d'un secteur et les arguments qui ne vont pas échapper à la règle.
Pardon, du coup j'ai l'attention. Attends, une petite seconde, Marc.
Pardon.
Attends. Je ne pense pas du tout que j'ai dit que la tech était une réponse à la précarité, au contraire, mais en fait la tech elle est là depuis très très longtemps, et j'ai cité un collectif qui est là depuis très très longtemps, à ADN, voilà, et qui sont des gens qui se mobilisent, qui font communauté, et qui n'essayent pas du tout d'être là-dedans. J'arrive de Lyon, le mapping et les fêtes de la fête des Lumières, je vois tout à fait de quoi tu parles, et à quel point les artistes sont les premiers français à ne plus du tout avoir envie d'aller dans ce genre de truc. En fait, c'est... Mais non, j'étais pas du tout là-dessus.
Non, mais on comporte la même chose.
C'est les endroits de recherche, au contraire, je pense. Ouais, ouais. Plutôt du côté de la recherche, de dire qu'il y a peut-être des endroits où il y a quand même des questions qui se posent aussi.
Ouais. Du point de vue de ces pratiques qui émergent depuis 30 ans.
Marc, tu nous as partagé quelque chose, tu veux intervenir?
Ah, peut-être. C'est un bon moment pour ça.
Oui.
C'est juste une petite chose un peu léger sur ce sujet de la liberté, de free, de das Freundin und so weiter. Ça veut dire, on parle souvent de open source, free, sans paiement, tout ça. Et des fois, on a des manifestations de ce que ça veut dire vraiment. Et là, c'est un petit truc avec des exemples relevants pour nous sur les chansons de nos jours et d'avant. Alors, Marvin Gaye, c'est « Wherever I lay my hat, that's home ». Ça veut dire « Je suis libre ». Même avec les Tentations, Metallica, Tom Waits, plusieurs personnes. Et avant, chez Schubert, après Müller, Das Wandern ist der Mundlust, und so weiter und so weiter. 50 Cent, What Up Gangster, ils sont tous les deux partagés de ce même troupe, de la même idée. Mais c'est tout à fait l'autre extrémité de Fair Principles, là où nous avons maximum connectedness. Ça veut dire que nous sommes très liés. C'est pas libre, c'est pas Das Wandern, c'est une autre chose. C'est free, in des deux sens, mais c'est autre chose. Alors, un petit peu léger.
Merci.
Plus profond.
Ouais.
Des réactions?
Ben donc, je pense qu'on peut tous se remercier collectivement, et puis j'aimerais qu'on applaudisse particulièrement Hyacinthe et Marion. Hyacinthe, je ne sais pas si tu peux venir ici, parce que tu as toujours été au fond de la salle.